années 60 sur RVE. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
Dans l'esprit de guerre, donne-moi la main.
One, two.
RVE, bonne matinée. Il est 10h. Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Bonjour à tous. La rétrospective de votre actualité de la semaine qui a été dominée en fin de semaine par ce terrible accident tuant des collégiens dans une collision entre un TER et un bus scolaire. Des collégiens qui devront peut-être bientôt demander l'autorisation à papa et maman pour aller sur Facebook. Le gouvernement prévoit d'imposer une majorité numérique, d'imposer aux mineurs de moins de 16 ans d'obtenir l'autorisation de leurs parents pour s'inscrire sur un réseau social. Alors comme une impression que les ados sont un peu dans le collimateur du gouvernement ces temps-ci, puisque cette semaine on apprenait aussi que le téléphone portable interdit à l'école et au collège dès la rentrée 2018, c'est sûr, ça se fera, a dit le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui a rappelé qu'il est bon que les enfants ne soient pas devant les écrans avant l'âge de 7 ans. Autre mesure impactant notre vie quotidienne annoncée cette semaine, enfin annoncée pour l'instant, on teste, on lance le pavé, on voit les réactions. Je suis favorable à la réduction de la vitesse à 80 km/h au lieu de 90 sur les routes départementales. C'est ce qu'a lâché le Premier ministre Édouard Philippe cette semaine. La décision sera prise au mois de janvier. Et notez que le nombre de morts sur les routes est en hausse de 8,9% en novembre, avec 281 tués contre 258 en novembre 2016, a dévoilé lundi la sécurité routière. À propos de voitures, notez qu'une voiture de 8 ans coûte moins cher à l'entretien qu'une voiture neuve. Eh oui, ça va contre les idées reçues. C'est une étude signée Vroomly, comparateur en ligne des prix de réparation de voitures. Prenons l'exemple du véhicule le plus répandu en France, une 208 de 4 ans. Elle revient à 423 € par an, tandis que le modèle plus âgé de 8 ans, une 207, revient à 346 €. La raison de l'écart est simple. Certaines interventions doivent se faire dans les 5 premières années et c'est là qu'il faut dépenser plus. Politique, c'est pas gagné pour Laurent Wauquiez. Après son élection le week-end dernier à la tête du parti Les Républicains, près de 6 Français sur 10 désapprouvent cette élection. Sondage BVA tombé cette semaine pour La Tribune. Laurent Wauquiez qui se défend cette semaine dans Le Parisien. Quand j'avais 28 ans et que je ne disais rien, j'étais le chouchou des médias. Quand maintenant j'assume mes idées, on veut me le faire payer. Je ne veux pas faire une droite filet d'eau tiède, je ne suis pas là pour plaire mais pour dire les choses. Une élection de Laurent Wauquiez à la tête du parti qui a provoqué une sortie du parti. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, affirmant qu'il ne se reconnaît plus sur la ligne du parti Les Républicains. Cette semaine, on a eu aussi le sommet international sur le climat convoqué à Paris par Emmanuel Macron, le One Planet Summit, pour trouver de l'argent pour lutter contre le réchauffement climatique. Et Emmanuel Macron a donné rendez-vous dans un an. Il veut que ce type de sommet se tienne chaque année et pourquoi pas chaque année en France. Emmanuel Macron qui a été une star. Hein. L'ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a insisté pour faire un selfie avec lui. Enfin, cette semaine, les premiers palmarès ont commencé à tomber. C'est la saison, hein. En fin d'année, on publie les palmarès de l'année 2017. C'est celui de Google qui a été publié cette semaine. Google en France, révélant que Johnny Hallyday a été le mot-clé le plus recherché sur son moteur de recherche sur toute l'année 2017, devant Maëlys, le nom de la petite fille disparue cet été dans l'Isère, et devant l'élection présidentielle. Quant aux définitions les plus recherchées sur Google, a-t-on appris en 2017, oligarchie, puis régalien, puis procréation médicalement assistée. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisis. Je vous souhaite de passer une excellente fin de week-end avec nous.
La météo de votre région sur RVE.
Et à 103.7, il est 10h passé de 3 minutes. C'était la rétrospective de l'actualité de la semaine sur RVE. La météo pour aujourd'hui, eh bien sortez vos laines puisque le temps reste frileux. On aura des températures de 2 à 3 degrés maximum, des rafales de vent et quelques flocons de neige. Bref, un ciel très nuageux.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport avec Philippe Carnu.
Et oui, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 18 mars. Alors naturellement, on va revenir sur ce qu'on vous avait fait vivre la semaine dernière sur l'antenne d'Herveud entre 9h et 11h, à savoir le semi-marathon de Rambouillet. On reviendra sur les temps forts de cette épreuve hein, qui marque traditionnellement eh bien, l'année sportive sur Rambouillet. On reviendra aussi sur l'autre événement dont on vous avait très abondamment parlé, le Paris-Nice cycliste. Et puis pour prolonger cette belle fête du sport qu'on a connue dans notre région, on recevra le président de la section badminton de Saint-Arnoult en Yvelines, Jean-Michel Cagny. Il est pris ce week-end en compétition, il ne pouvait pas être là, Jean-Michel Cagny, donc on a exceptionnellement enregistré son interview la semaine dernière. Allez, on revient donc sur ce semi de Rambouillet hein, qu'on vous a fait vivre sur l'antenne d'Herbeux dans les conditions donc pas toujours faciles, mais il y avait la moto avec Arnaud, et avec Arnaud on a pu vous faire suivre vraiment dans les conditions du direct et avec les bonnes infos, cette 31e édition du semi remportée par quelqu'un qu'on connaît bien, c'est Fabrice Derue. Il était originaire de Rambouillet, hein, il a été licencié à Marseille, il est aujourd'hui licencié à l'aviron bayonnais, comme le disait donc Arnaud dans son commentaire. C'est le rugby qui a été aussi en quelque sorte honoré. 1h11 minutes et 36 secondes, c'est le temps réalisé sur cette édition 2018 du semi-marathon de Rambouillet, édition nouvelle version hein, puisqu'il y avait un parcours qui était légèrement modifié par rapport aux saisons précédentes. Deuxième, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, Philippe Ferreira, qui termine en 1h12 minutes 31 secondes. Le troisième, c'est aussi quelqu'un qu'on connaît bien dans la région, donc vous voyez un plateau très relevé parmi les hommes de tête, Nicolas Duhaille, qui lui a réalisé le temps de 1h12 minutes et 50 secondes. Quatrième, Théo Personneau, qu'on a eu l'occasion d'avoir en interview avec Arnaud à l'arrivée, 1h13 minutes et 10 secondes. Et le cinquième, c'est Grégory Cheval de Saint-Quentin en Yvelines en 1h13 minutes et 27 secondes. La première féminine, c'est Sylvie Quito, 79e de l'ES Renault, en 1h26 minutes et 41 secondes. À noter que 2138 concurrentes et concurrents en ont donc terminé sur ce semi de Rambouillet. Et puis autre événement dont on avait naturellement beaucoup parlé sur l'antenne d'Herveux, c'était le Paris cycliste. Et bien on se demandait si Yetz, qui était en tête dimanche matin à l'occasion de notre émission, allait conserver sa tête. Et bien non, Yetz, il n'a malheureusement pas pu remporter ce Paris Nice. Il s'est fait piéger dans la dernière étape et c'est Marc Soler qui a terminé troisième de cette dernière étape, gagnée par son compatriote David Delacruz, qui remporte cette édition 2018 du Paris-Nice pour quelques petites secondes grâce au jeu des bonifications. Donc victoire de l'Espagnol Marc Soler devant Simone Yates à 4 secondes. Le troisième, c'est Gorga Izagir à 14 secondes. Le quatrième, c'est son frère Yon Izagir à 16 secondes, dans le même temps que Tim Villens qui termine cinquième. Premier français Alexis Villermoz à 1 minute 54 secondes. Julien Alaphilippe, qui s'est effondré dans cette dernière étape, termine 18e. Donc bilan assez mitigé, plutôt positif pour les Français au niveau des courses à 4 étapes. 4 victoires dans ce Paris-Nice 2018, beaucoup moins bon au niveau du général, puisque seul donc Villermoz termine dans les 10 premiers. Et puis un petit mot aussi concernant la section boxe française de Rambouillet, puisque Gabriel, qu'on avait reçu dans notre émission au mois de janvier, est devenu championne d'Île-de-France dans sa catégorie. Voilà, on va donc remercier toute l'équipe qui a quand même œuvré la semaine dernière, pas toujours dans des conditions très faciles avec nous, hein, sur le semi de Rambouillet. Et puis bien maintenant, pour bien prolonger cette belle semaine de sport, on va écouter comme prévu Jean-Michel Cagny, le président de la section badminton de Saint-Arnoult en Yvelines, qu'on a reçu la semaine dernière à ce micro. Allez, nous sommes avec le président de la section badminton de Saint-Arnoult en Yvelines, monsieur Jean-Michel Cagny. Monsieur Cagny, bonjour. Merci en tout cas de répondre donc à l'invitation d'Herveux. On a enregistré cette interview parce que je sais que ce week-end, donc des 17 et 18 mars, vous êtes particulièrement pris par les compétitions.
Oui, bonjour Philippe. Merci de m'en recevoir. Ouais. Effectivement, nous avons le week-end prochain notre tournoi annuel régional qui regroupera cette année 170 joueurs venus de tout le département et parfois de plus loin.
Voilà, alors c'est un tournoi important, c'est le premier tournoi, c'est un tournoi qui existe depuis très longtemps.
Alors, en l'occurrence, c'est notre 15e tournoi. Chaque année, avec l'aide des bénévoles, avec l'aide de la mairie, avec l'aide de nos amis de l'Union sportive de Saint-Arnoult, on organise ça. Et ça rencontre un succès toujours renouvelé.
D'accord. Quels sont les clubs qui vont venir participer à votre compétition ?
Alors, il y a des clubs de tout le département. Pour les cités de tête de Montigny, il y a nos amis des Essarts, du Perrin en Yvelines, bien sûr une colonie importante de nos amis de Rambouillet, et vraiment de tout le département, de l'Essonne également, du 77, les plus lointains viennent de l'Ille-et-Vilaine.
D'accord, donc c'est un tournoi qui a maintenant c'est l'aide de noblesse, hein. C'est sa reconnaissance.
Alors c'est un tournoi que tout le monde s'accorde à trouver sympathique. On essaie de faire ça dans un bon esprit de convivialité, d'être organisé le mieux possible, de manière à ce que les gens jouent le plus vite possible, à ce qu'il y ait le moins de temps mort possible, avec une buvette qui est animée par un breton qui nous fait des galettes bretonnes fabuleuses qui sentent bon à travers tout le gymnase. Voilà, donc on essaie d'être le plus efficace possible, tout en gardant le meilleur esprit possible, en proposant tous les services, avec une buvette bien entendu, mais avec un stand de notre partenaire l'Art des Sports, pour tous les besoins en termes de raquettes, en termes de cordage, en termes de volant, tout ce qu'il y a à faire à la compétition.
C'est le temps fort de votre saison sportive ou il y a d'autres rendez-vous importants?
Alors, sportivement parlant, c'est le temps fort. Après, il y a d'autres rendez-vous. On essaie de promouvoir également la convivialité au sein du club. Donc, on fait un tournoi interne qui s'adresse aux membres du club et qui est destiné à intégrer les nouveaux arrivants. Donc, on fait ça au mois d'octobre, mi-octobre. C'est réservé aux membres du club, de façon à ce que les gens découvrent le club. On associe un débutant à un joueur confirmé et on fait des matchs de double. Et tout ça se termine par un pique-nique à la Bonne Franquette.
Alors, Jean-Michel, avec votre action chantant du Sud-Ouest, pourquoi le badminton? C'est arrivé comment, cette passion?
C'est arrivé par hasard. En fait, au sortir de mes études, je suis parti. Alors, c'était il y a malheureusement bien longtemps de ça. Et au sortir de mes études, je suis parti vivre en Allemagne. Je jouais au tennis, mais là-bas, le tennis, c'était encore un sport très élitaire. Et tous mes copains là-bas jouaient au badminton, et donc je suis tombé dedans tout à fait par hasard. Voilà, et ensuite je suis rentré à Paris, je me suis installé à Paris où faire du sport c'est pas évident, les gymnases sont overbookés, et puis le badminton à l'époque restait un sport très confidentiel au début des années 90. Et en fait, après 15 ans de vie parisienne, à la naissance du troisième, ne pouvant pas pousser les murs, on est venu s'installer à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Et là, une des premières choses que ma femme m'a dit, c'est tiens, il y a une section badminton, tu devrais aller voir.
Voilà, puis c'était le début d'une longue histoire qui vous a emmené à la présidence de cette section.
Oui, alors ça, c'était pas un but en soi. Le but en soi, c'était de rejouer. Et le badminton, c'est avant tout un plaisir. C'est avant tout aussi de pouvoir se vider la tête, de pouvoir se vider les jambes, de pouvoir se vider le ventre après une journée ou une semaine de travail. Et en fait, je suis arrivé à la présidence parce que les uns ou les autres ont cessé leur activité sportive ou ont arrêté faute de temps. Donc c'est, je dirais, plus la nécessité qui m'a propulsé président. Mais Dieu merci, je suis entouré par une excellente équipe. On fait du bon boulot, donc c'est de l'investissement, c'est du temps. Mais ça en vaut la peine.
Oui, alors justement, c'est une question que je pose souvent à tous ceux qui sont présents, parce que on parle toujours des problèmes du bénévolat. C'est bien, c'est une tâche passionnante, exaltante, que celle de président.
Alors, exaltante, passionnante, oui, exaltante, mon Dieu, on se fait bien entendu rattraper par le quotidien. Mais de toute façon, à mon grand âge, j'ai ma carrière, mon heure de gloire sportive, elle est derrière moi, et avec tous mes amis de l'USSA, nous avons un but, c'est de promouvoir le sport, quel qu'il soit, à Saint-Arnoult-en-Yvelines, et pourquoi pas dans les environs, par exemple lors du tournoi. Donc le bénévolat, c'est pour que mes enfants et ceux des autres puissent avoir accès à des disciplines sportives les plus variées possibles dans les meilleures conditions possibles.
Alors, vous êtes sous l'égide de l'Union sportive de Saint-Arnoult, hein, Omnisport, dirigé par quelqu'un qu'on connaît bien, Frédéric Auroux. C'est bien d'être comme ça, sous une section Omnisport, ça donne des avantages. On sait qu'il y a quand même beaucoup de liens entre les différentes associations sur Saint-Arnoult. Hein. On sent une ville très soudée en matière de sport.
Eh bien, écoutez, je vais vous donner un exemple concret. À l'occasion de notre tournoi, c'est la section Escalade qui va jeudi prochain monter sur le toit du gymnase, s'encorder, monter et opacifier les puits de lumière afin que les joueurs ne soient pas éblouis. C'est une condition sine qua non qui est absolument requise par le juge arbitre. Toutes les possibilités d'éblouir les joueurs doivent être occultées. Et ben, c'est la section Escalade, dirigée par mon ami Dominique Diquet, qui va s'en charger cette année en grimpant sur le toit jeudi prochain.
Ouais, voilà, bah, c'est un bel exemple, effectivement, de solidarité du monde sportif face à Tarnou. Hein. Ce sont des sections qu'on a reçues très souvent à ce micro. La différence entre le badminton et le tennis, pour quelqu'un qui voudrait prendre votre exemple?
Alors, ce sont deux sports de raquettes, mais la ressemblance s'arrête là. Ouais. Le tennis que j'ai beaucoup pratiqué et qui est un sport extrêmement élégant a certaines exigences que n'a pas par exemple le badminton. Le badminton est d'une approche beaucoup plus simple. Pour jouer au tennis, il faut d'abord apprendre la technique, il faut apprendre le placement. On ne peut pas taper la balle n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Alors qu'au badminton, la raquette pèse 90 grammes, voire parfois moins, le volant 5, donc c'est difficile de se faire une entorse au poignet, même si on tape mal le volant.
Mmh. Mais il y a quand même des changements de rythme, il est identique au badminton qu'au tennis?
Non, en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais le badminton est un sport extrêmement rapide. Mmh. Les meilleurs serveurs au tennis envoient une balle à 230 à l'heure. Il faut savoir que les professionnels du badminton, quand ils se matchent, puisque chez nous, il n'y a pas à proprement parler de service, il y a plus une mise en jeu, mais lors de l'échange, quand il y a un smash comme au tennis, la balle part, le volant en l'occurrence, part à plus de 400 à l'heure. Alors, il y a une décélération, bien entendu, liée au volant, liée à la plume, mais c'est un sport extrêmement rapide.
Oui. Alors bon, c'est un sport qui use aussi. On peut avoir des blessures fréquentes, des tendinites, des entorses, parce que comme il y a les mêmes déplacements qu'au tennis.
Eh bien, écoutez, Philippe, je vais vous répéter ce que m'a dit mon médecin. Faire du sport, c'est pas bon pour la santé, mais ne pas en faire, c'est pire.
Oui. Donc faites du badminton, c'est ça.
Faites du sport. Oui, du sport. Je vais pas faire du prosélytisme pour le badminton en particulier. Faisons du sport. Maintenant, pour en venir à votre question d'origine, bien entendu, le badminton est accidentogène. C'est un sport où on est sans arrêt en reprise d'appui. On part à droite, à gauche, devant, derrière, et sans arrêt jusqu'à ce que le volant tombe par terre. Donc c'est vrai que pour les articulations, c'est pas optimal, mais c'est pas beaucoup pire que le hand, le basket, tous les sports où on saute, où on reprend des appuis. L'idéal, bien entendu, c'est de marier la pratique du badminton à un sport d'endurance tel que l'athlétisme, le fond, le football, voilà, des sports comme ça.
Est-ce que c'est un sport de reconversion, comme l'a souvent été le tennis, par exemple? Est-ce que c'est un sport qu'on vient pratiquer une fois une carrière sportive terminée à 40-45 ans?
Alors, pas tellement, parce que c'est un sport qui est quand même, d'un point de vue cardiovasculaire, extrêmement exigeant. C'est le deuxième sport le plus exigeant en termes cardiovasculaires, après, non pas le squash, mais le hockey sur glace. Mmh. Alors, ne me demandez pas pourquoi, posez la question à un cardiologue. Mais a priori, c'est un sport quand même très exigeant, donc... En termes de reconversion, peut-être pas. Par contre, en termes de plaisir, ou encore une fois, en termes de complément. On a beaucoup de gens qui viennent du tennis et qui viennent justement au badminton pour exercer leur vitesse, leur rapidité et aussi leur endurance. Parce que quand ils se retrouvent après avoir joué au badminton sur un court de tennis, eh bien, ça leur paraît plus lent.
Et pas de contrainte de poids, pas de contrainte de taille. Je veux dire, on peut être tout petit, faire 1m60 et la pratique de ce sport ne nous est pas interdite.
Ah, complètement, complètement. Alors, bien entendu, on a un angle plus ouvert quand on mesure 1m90 que quand on mesure 1m60. Mais nous avons au club des joueurs de petite taille et je pense à un jeune joueur. Qui a aujourd'hui un excellent niveau, et je vous assure, cher Philippe, que quand il balance un smash, il vaut mieux être bien placé, parce que sinon c'est dommage pour vous.
Vous êtes combien donc dans cette section badminton à l'heure actuelle, en mars 2018?
Bien, écoutez, en mars 2018, nous sommes 103 adhérents. Je me trompe peut-être d'un ou deux, mais c'est de cet ordre-là. Nous avons atteint notre record la saison dernière où nous étions 114. Alors, ce sont des chiffres qui sont... là, on atteint notre maximum, on va dire, puisque nous ne disposons malheureusement que d'un seul gymnase avec 5 terrains tracés. Donc, c'est 20 joueurs qui peuvent jouer à la fois. Alors, bien entendu, on instaure une rotation. On fait, voilà, quand on fait des matchs et on ne joue pas le troisième set pour que il y ait une rotation. Et au fur et à mesure, après que les joueurs partent, rentrent chez eux, les terrains se libèrent. À ce moment-là, on peut faire du simple. On peut, voilà. Donc, de toute façon, malheureusement, en l'état actuel des choses, nous ne pourrions pas accueillir beaucoup plus d'adhérents.
Oui, c'est facile ce partage justement avec les autres associations sportives hein, dans ces créneaux, parce que je sais que c'est les problèmes un peu partout dans toutes les villes, que ce soit Rambouillet, Le Perret. Est-ce que c'est facile de partager comme ça ces installations sportives avec d'autres associations?
Bah écoutez, nous on parle et on essaie de travailler en bonne intelligence. Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Bien sûr, on aimerait avoir plus de créneaux, on aimerait avoir plus de possibilités, mais on ne peut pas non plus faire que du badminton à Saint-Arnoult et limiter l'offre sportive. Donc oui, ça se passe bien. Il est envisagé, les études sont en train d'être faites, de construire un second gymnase à Saint-Arnoult. Est-ce que nous aurons les financements? Mystère et boule de gomme, pour l'instant c'est trop tôt pour le dire, mais c'est quelque chose qui est dans les tuyaux pour justement désengorger le gymnase actuel qui éclate un petit peu par toutes les coutures.
Jean-Michel, on a donc parlé de vos pratiquants et pratiquantes. Quelle est la tranche d'âge représentée et est-ce qu'ils viennent que de Saint-Arnoult? Parce qu'il y a beaucoup de petits villages avoisinants autour de Saint-Arnoult.
Alors, la tranche d'âge, on prend les jeunes joueurs à partir de 8 ans, 9 ans, avec du matériel adapté qu'on leur prête. Ça peut être un peu plus tôt si on a d'affaires à des jeunes qui ont une très très bonne coordination, pourquoi pas. Et le doyen de la section doit avoir dépassé les 65 ans. Mmh. On a eu des personnes plus âgées, voilà. Après, pourquoi pas. Le badminton, encore une fois, c'est aussi un sport plaisir. Donc, on a des gens qui viennent uniquement pour transpirer, qui se mettent à quatre sur un terrain, qui transpirent, entre guillemets, entre eux. Mais bien entendu, de temps en temps, je vais jouer avec eux, ou l'un ou l'autre va jouer avec eux pour les conseiller, leur dire... Voilà. Mais ce sont des gens qui ne feront jamais de compétition, qui sont là juste pour le plaisir d'être ensemble. Pourquoi pas? Ça doit rester avant tout quelque chose qui fait plaisir.
Et ils sont pas comme Saint-Arnoult. Ils sont de Rochefort-en-Yvelines, de Bullion, de Bonnel, d'Ablis-Fonchamp.
Oui, tout à fait. Tout à fait. On a beaucoup de gens qui viennent. Alors, je vais pas citer le nom des villes, mais on a une grosse colonie de personnes qui viennent, d'adhérents, qui viennent d'une ville avoisinante, tout simplement pour des conditions de jeu. Nous avons cette chance d'avoir un gymnase qui est certes vieux, qui est certes qui n'a certes que 5 terrains, mais avec par exemple un revêtement de sol qui est tout à fait adapté à la pratique du badminton. Donc ça c'est un avantage, un véritable avantage, c'est aussi le fait que l'éclairage ne gêne pas. Dans certains gymnases, selon le tracé des terrains, quand vous levez la tête et que tout d'un coup vous avez le projecteur en face, le volant, vous savez plus où il est. Et nous on a cette chance de pouvoir jouer dans des conditions tout à fait intéressantes. Et du coup, ça a drainé des joueurs des communes alentours.
Comment on explique qu'il y ait autant de clubs de badminton dans la région? Parce que, bon, il y a Saint-Arnoult, il y a Rambouillet, il y a Sonchamp, il y a le Ménil-Saint-Denis, il y a les Essarts-le-Roi, il y a le Perret en Yvelines. Il y a des clubs partout dans un sport qui est assez confidentiel.
Eh bien, écoutez, en fait, ça s'explique, à mon avis, par l'approche très facile du badminton. Il vous faut une paire de chaussures de salle, un short, un t-shirt, ne pas oublier sa bouteille d'eau, très important de s'hydrater, et puis après, que tu joues de la main gauche, de la main droite, avec les dents, l'important c'est de renvoyer le volant de l'autre côté du terrain. Donc vous mettez deux débutants face à face, ils peuvent se faire plaisir immédiatement. Alors que pour en venir à l'exemple du tennis qu'on prenait avant, c'est un peu frustrant. Il faut d'abord travailler la technique. Alors que chez nous, tout de suite, tu peux t'amuser. Alors après, pour progresser, bien entendu, là aussi, il faut travailler sa technique, il faut travailler le physique, mais vous trouverez toujours au sein du club quelqu'un qui sera là pour vous conseiller, vous expliquer pourquoi vous avez fait telle faute, comment corriger ça, l'aspect tactique, bien entendu. Comme je vous disais tout à l'heure, on a peu de terrain et beaucoup de monde, donc on fait beaucoup de doubles. Et donc, on conseille, bien entendu, les débutants pour qu'ils progressent.
Mais ça veut dire qu'à travers ces clubs, qu'il y a de la place pour tout le monde et fatalement une forte demande.
Oui, alors, je peux pas dire ce qu'il en est pour les clubs avoisinants, quoique, on connaisse très bien nos amis de Rambouillet, du Perrin en Yvelines. Des Essarts, et je crois que ce sont des clubs qui tournent tous bien, qui ont toujours un nombre d'adhérents qui restent stables d'une année sur l'autre, voire qui progressent. Parce qu'encore une fois, le badminton est d'une approche très facile et que ce n'est pas très cher. N'importe quoi, entre 120 et... Alors, après, les tarifs pratiqués ailleurs, je ne peux pas en parler, mais entre 120 et 200 euros par an, vous pouvez jouer dans d'excellentes conditions.
Donc, ce sont vos tarifs à vous aussi, à Saint-Arnoult ?
Non, alors nous sommes, si je dois parler d'argent, à 115 euros pour les adultes par an. Le prix de la licence, bien entendu, est compris dedans. Ce qui représente, il faut le savoir, 40% même 45% de ce montant.
Après, il y a l'équipement, il y a la raquette, ça c'est à la charge du pratiquant.
Oui, alors on a du matériel de prêt pour les débutants, mais les gens s'inscrivent donc en septembre, au moment du forum des associations, et fin septembre, on fait venir notre partenaire qui propose un choix de raquettes qui vont de 30 à beaucoup plus après. Mais à partir de 30 euros, vous avez un excellent matériel. Moi-même, je joue avec des raquettes qui valent pas plus que ça, et ça me va très bien.
Ça a beaucoup changé, le matériel, ça a beaucoup évolué. Bon, on sait qu'en tennis, ça a beaucoup donc changé. Est-ce que c'est pareil pour badminton ?
Alors, le matériel n'a pas tellement changé en soi. Par contre, les prix se sont envolés. C'est lié, bien entendu, au succès croissant de ce sport, que ce sport a rencontré dans le grand public. Et bien entendu, tous les fabricants se sont dit, mais pourquoi vendre une raquette à 90 euros ? C'était le prix maximum, moi, quand j'ai recommencé. Si on peut la vendre, le double. Donc, les prix se sont envolés, mais... Après, c'est une question, bien entendu, plus on monte en gamme et plus on monte en termes de classement, plus on veut avoir du matériel adapté. Bon, mais pour un débutant, on trouve du très bon matériel à 30 euros sans problème.
Et qu'on peut garder plusieurs saisons. On n'est pas obligé d'avoir un jeu de raquette.
Alors, je conseille toujours d'en avoir au moins deux, tout simplement parce que si le cordage lâche...
Ah, ça peut lâcher aussi au badminton, comme le tennis ?
Ah, ben bien sûr, bien sûr. Si le cordage lâche, on a une raquette de secours. Voilà. Maintenant, encore une fois, nous, pour les débutants, on a toujours des solutions de rechange, où vous avez toujours un partenaire qui vous prêtera une raquette... Mais à partir du moment où vous faites de la compétition, il faut toujours au moins avoir deux raquettes.
Et les volants, alors, ça a changé aussi ?
Alors, les volants, c'est toujours les mêmes. Ce sont des volants en plastique qui sont beaucoup moins chers que les volants en plume. Parce que pour détruire un volant en plastique, il faut vraiment vouloir le faire. Il faut vraiment sauter dessus à pieds joints. Alors, les volants en plume, c'est autre chose. C'est beaucoup plus fragile, il suffit de le taper un petit peu de travers pour le fragiliser. Le coup d'après, il y a une plume qui casse. Et à partir du moment où une plume qui casse, le vol en est affecté. Et dès lors, le volant a quelques minutes d'espérance de vie. Donc, c'est à réserver a priori aux joueurs confirmés. On ne veut pas classer les adhérents en ceux qui jouent en plastique et ceux qui jouent en plume. Il n'y a pas chez nous d'adhérents de première et de seconde zone. Mais a priori, aux débutants, je leur explique que les volants coûtent cher et que donc pour débuter, je leur conseille plutôt le plastique.
Une question qu'on pose souvent, elle est à quelle hauteur, la hauteur du filet ?
De mémoire, 1,50 m. 3, quelque chose comme ça, aux alentours, allez, 1m55 pour faire simple.
D'accord. Et une partie, ça dure combien de temps quand on est en compétition?
Alors, la durée moyenne, je dirais, se situe entre 20 et 25 minutes, sachant que un match de 20 minutes, c'est plutôt court. Un match de 30-35 minutes, c'est plutôt long. Maintenant, c'est un sport où, encore une fois, le but est très simple. Hein, il faut éviter que le volant tombe chez soi. Donc, ça peut amener à des échanges plus ou moins interminable, et souvent on voit des joueurs qui sortent du terrain complètement exténués.
Mais il y a des sets, des manches, non? En combien de points on peut aller?
Ce sont 3 sets de 21 points.
Oui.
Et alors,
avec 2 points d'écart, non?
Avec 2 points d'écart jusqu'à 30. Mmh. C'est-à-dire qu'à 29 partout, celui qui remporte le 30e point a gagné le set.
Mmh. Bon, bah écoutez, on marque une petite pause musicale, un peu de pub, et puis il doit y avoir beaucoup d'ambiance, donc on en reparle.
De la Bretagne est à la crêperie Tibilig. Galettes, crêpes, salades et glaces à base de délicieux produits frais. La crêperie Tibilig vous accueille du mardi au samedi avec sa carte et ses menus. Venez passer un moment agréable et détendu autour d'un bon repas à la crêperie Tibilig. 13 place Félix Faure à Rambouillet. Réservation 01 30 46 23 11.
Vous vendez, vous louez, DPE Amiante Plomb, Loire Carrez. Agenda Diagnostic, leader du marché, diagnostique vos maisons, appartements, immeubles, commerces et bureaux. Profitez de l'expérience du premier réseau de diagnostic immobilier au meilleur prix. Agenda Diagnostic Sud-Yvelines, 01 34 83 80 10. www.agendadiagnostic.fr.
À Rambouillet, 14 rue Chal, SMA Fenêtre, votre spécialiste ISO France vous invite à venir découvrir son showroom et toute sa gamme de fenêtres, stores, volets, portes d'entrée et portes de garage, sur mesure, en PVC, bois, alu et mixte. SMA Fenêtre vous propose des produits adaptés à vos besoins pour isoler, chauffer votre maison tout en réalisant des économies. Alors, pour un devis gratuit, contactez votre spécialiste SMA Fenêtre, 14 rue Chal à Rambouillet, au 01 30 88 62 32.
Et le sport dans votre région avec RVE.
Bon, alors, on pourra d'abord écouter, Jean-Michel, cette émission en podcast, hein, comme tous les dimanches, hein, comme toutes les semaines. Vous pouvez aller sur notre site radio-rve.com, rubrique Trim et Sport, et là, vous réécoutez toutes les émissions de ce début d'année 2018, toutes celles aussi, une grosse partie de 2017, et puis toutes les interviews hein, qu'on a pu vous ramener, notamment des différents champions et championnes. Allez, il doit y avoir beaucoup d'ambiance dans une compétition de badminton.
Ah oui. De l'ambiance, oui, il y en a. Surtout au fur et à mesure que les. Alors quand on parle d'un tournoi, par exemple, que les finales approchent, bon, on voit des matchs, bien entendu, d'un très très bon niveau. Mmh. Oui. Et puis c'est un sport qui est quand même très fédérateur. Quand on a des rencontres interclubs. On reste pour soutenir son équipe.
Oui, mais on ne demande pas le calme quand on est sur le parquet.
Alors non, parce qu'en fait chaque joueur qui dispute un match le fait en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a cinq terrains quand les équipes reçoivent en interclub qui sont occupés en permanence. De la même manière, en tournoi, les matchs sont lancés par le juge arbitre sur les 5 terrains, match numéro 1, 2, 3, 4 et 5, et les 5 matchs ont lieu en parallèle. Donc, c'est pas le tennis où on réclame le silence, etc. De toute façon, je peux vous dire que quand vous êtes en match, vous êtes complètement immergé dedans et vous entendez rien de ce qui se passe à côté, vous êtes concentré sur le jeu et le score.
Bon, alors, c'est un sport. Très physique, naturellement, il faut un entraînement. C'est quoi l'entraînement type quand on fait de la compétition? Beaucoup de techniques, mais aussi une énorme préparation physique.
Alors, préparation physique, oui, mais c'est surtout, c'est beaucoup axé sur le déplacement, notamment. Déplacement, replacement, donc avec des exercices, ce qu'on appelle du shadow, en anglais ombre, c'est-à-dire en fait, c'est du travail sans raquette. On va travailler son explosivité par exemple avec des exercices spécifiques, l'endurance bien entendu, j'évoquais tout à l'heure l'éventualité de faire un sport à côté tel que le football ou de l'athlétisme, pour travailler le fond bien entendu, et puis après encore une fois des exercices spécifiques d'abord sans raquette et puis ensuite avec raquette pour travailler tout ce qui est toucher de balle, certains points spécifiques, le dégagement en revers, le dégagement au coup droit, les amortis, etc.
Surveiller son poids, c'est quand même indispensable quand on fait de la compétition.
Là, vous devenez franchement désagréable, Philippe. En ce qui me concerne, je veille à ne pas trop mincir parce que...
C'est pas pour vous, hein.
De toute façon, non. Oui, bien sûr. Alors, ça dépend du niveau de compétition. Ouais. Et encore une fois, c'est un des avantages du badminton, c'est que une personne en surcharge pondérale, comme c'est mon cas, peut trouver du plaisir. Moi, aujourd'hui, je dis très franchement et sans aucune mauvaise foi, je préfère perdre un match très très engagé et très équilibré contre quelqu'un de mon niveau que battre un débutant. Ça, je sais faire, il n'y a pas de problème. Mais si on fait un bon match et que ça se décide pour lui, alors que ça aurait pu être pour moi, mon Dieu, sur le coup, bien sûr, je vais râler comme un pou, mais après, c'est pas bien grave. En général, les gens que l'on rencontre, que ce soit en interclub ou en tournoi, d'ailleurs, on finit par les connaître. Bon, il y a dans 99,9% des cas un très bon esprit.
Le mental, il est hyper important, il est hyper déterminant souvent.
Ah oui, c'est sûr. On peut d'ailleurs il peut arriver au cours d'un match qu'on sorte du match, qu'on se déconcentre et on va perdre une dizaine de points d'affilée, voire un set, et puis on va se remotiver, se remettre dedans et gagner la partie, ou la perdre, enfin. Mais effectivement, c'est très important de rester concentré, mais il arrive à tous les joueurs de tous les niveaux à un moment donné de sortir d'un match. Mais il est certain que la concentration est un aspect essentiel. Et puis, bien entendu, après, la question de ne pas craquer face à l'adversaire d'un même niveau. C'est plus facile quand on joue contre quelqu'un de beaucoup plus fort ou de beaucoup moins fort. Bon, là, la question se pose pas. Mais non, ça n'a pas non plus un intérêt majeur.
Sur les 115 adhérents, combien se répartissent en loisirs et combien en compétition? Est-ce que vous êtes un club formateur, un club plus tourné vers la compétition?
Alors en fait, bon, on est un club du sud extrême des Yvelines, puisque passer Saint-Arnaud en Yvelines, ouais, commence l'Eure-et-Loire. Donc on a bien entendu des difficultés à trouver un coach pour faire de la formation et pour amener les joueurs vers le plus haut niveau possible. Ceci dit, on a eu la chance ces dernières années d'avoir un des meilleurs joueurs français qui nous a entraînés pendant deux saisons. Et donc ça nous a fait progresser énormément et on a donc on peut dire aujourd'hui deux aspects, d'une part une base de joueurs qui viennent là pour du loisir et puis un bon nombre de joueurs qui sont là pour la compétition, pour s'amuser bien entendu. Et d'ailleurs bon, les échanges qu'on peut avoir avec les clubs des alentours sont là pour confirmer cette voie. On est là avant tout pour se faire plaisir, mais en compétition on prend ça au sérieux et on essaie de faire du mieux possible.
C'est facile d'harmoniser en tant que président, parce que je sais qu'il y a des clubs où parfois on reproche de donner trop d'importance à la compétition, des fois l'inverse. Harmoniser comme ça le choix des loisirs et des compétiteurs, c'est facile?
C'est pas évident. Vous avez raison, c'est un problème qui peut être récurrent. Alors, ça, c'est avant tout aussi une question d'individu. Il y a des gens qui ne comprennent pas toujours qu'on leur explique que aujourd'hui, non, c'est réservé aux compétiteurs parce qu'on a des matchs par équipe et que voilà. Donc bon, il faut faire un effort de pédagogie. Parfois, on a eu quelques récalcitrants, quelques bon entre guillemets râleurs. Bon, ça peut se comprendre. Mais d'un autre côté, quand on a des résultats, quand on peut afficher des résultats en disant ben voilà, cette année telle équipe monte, c'est avant tout pour le bien du club. Mais maintenant, la perfection n'est nulle part.
Hein. Ah oui. Donc les compétitions, elles sont individuelles, par équipe, ça se passe comment? Et est-ce qu'on peut s'engager dans les deux ou est-ce qu'on est obligé de se spécialiser?
Ah non, on peut s'engager dans les deux. Alors nous avons fait le choix d'inscrire 4 équipes cette année. Donc ce sont des compétitions comme des interclubs par équipe, hein, comme le nom le dit. Mais après, il appartient à chaque joueur de s'inscrire en tournoi. Donc ça, ce sont des compétitions individuelles. Quand je dis individuelles, ça peut être des tournois de double, comme c'est le cas pour le nôtre. Donc le badminton est un sport d'équipe, mais qui se pratique de manière individuelle.
Il y a peut-être des joueurs, des joueuses plus tournés vers le collectif et d'autres meilleurs en individuel.
Alors tout à fait. Il y a des joueurs qui sont avant tout des joueurs de simple. Alors en général, un très bon joueur de simple, c'est jouer en double. Mais c'est une question de préférence après. Et puis il y a une troisième discipline qui est le double mixte, qui associe donc, comme son nom l'indique, un homme et une femme, un joueur et une joueuse, et qui a là encore ses particularités techniques, mais surtout tactiques.
Ça fait comme au tennis, hein. Il y en a qui étaient plus spécialisés sur la Coupe Davis et d'autres plus dans les tournois, hein. Donc badminton, ça y ressemble. Vous avez beaucoup de femmes dans votre sport et dans votre section?
Alors le badminton est un sport qui est tout à fait ouvert aux femmes et absolument pas misogyne. Si tant est qu'il existe des sports misogynes, faut que je sois prudent, je peux pas dire.
C'était la journée de la femme, hein, il y a quelques jours.
Voilà, et ben, chez nous, c'est la journée de la femme chaque année, ces dames sont les bienvenues, et d'autant plus les bienvenues que les compétitions par équipe sont des compétitions mixtes. Faut savoir qu'une compétition à notre niveau se joue de 3 simples messieurs, 1 simple dame, 1 double mixte, 1 double dame et 1 double messieurs. Donc on voit que ces dames sont non seulement les bienvenues, mais qu'on les invite à participer à tous les niveaux de la compétition, dans toutes les équipes.
Et pour faire la compétition, on met combien de temps en gros? C'est-à-dire, bon, on n'aurait jamais fait de badminton. On vient, on commence par quelques séances, et on veut faire la compétition, au bout de 6 mois, c'est possible?
Alors c'est tout à fait possible. Ça, c'est fonction en fait des individus. On voit arriver des jeunes ou des moins jeunes. qui ont un passé sportif ou un avenir sportif pour les plus jeunes qui est clairement dessiné. On voit des gars qui ont le sens, qui viennent du tennis par exemple, et qui ont tout de suite le sens de la balle. Alors il faut corriger les gestes, il faut corriger le placement, il faut voilà. Mais après, je pense qu'on est sportif dans l'âme. Toutefois, nous avons quelques membres à la section qui disent qu'avant le badminton, le sport ne leur disait rien, et je reste poli. Et qu'en fait, ils ont découvert le badminton et cet aspect ludique de la chose, et que pour eux, c'est devenu un besoin tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent au badminton. C'est cet aspect ludique qui permet vraiment d'accrocher les gens et qui rend en fait ce sport passionnant.
Oui, et puis c'est pas qu'un sport de plage, hein. Ça a souvent eu cette image-là. C'est pas qu'un sport de plage, et c'est pas qu'un sport de printemps.
Non, alors effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est un sport extrêmement exigeant d'un point de vue cardiovasculaire. Mmh. Et puis c'est un sport passionnant parce que avec quasiment le même geste, vous pouvez laisser mourir le volant derrière le filet, mais pour les très bons joueurs, un coup avec le petit doigt sur la base de la raquette permet d'expédier le volant à l'autre bout du terrain. Mmh. Alors ça, c'est pas moi, hein. Encore une fois, c'est des joueurs d'un tout autre niveau, mais c'est quasiment le même geste. Donc c'est un sport qui est extrêmement riche, et ce qui a par ailleurs d'autres conséquences. Notamment le fait d'être très difficile à filmer, par exemple.
Oui, je sais, c'est pour ça que la télé montre plus trop de badminton. Hein. C'est difficile. Alors peut-être faut-il avoir des volants de couleur pour peut-être un peu plus dissocier le jeu.
Alors c'est très difficile parce que
ça va trop vite.
En fait, ça va très vite, et deux, le badminton est victime de la fameuse erreur de parallaxe. Mmh. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile pour l'œil humain, quand on est situé d'un côté du terrain, d'apprécier ce qui va se passer de l'autre côté. Puisque là, on parle de quand le volant est quelques millimètres en dehors des lignes, bah, comme au tennis. Hein, voilà. Alors est-ce qu'on aura le Hawkeye bientôt chez nous ? Possible, pourquoi pas. Il faut savoir que dans les compétitions à niveau national et international, il y a pas moins de 9 juges de ligne. Alors je vous dis 9, c'est peut-être plus que ça. Il y a un juge en fait par ligne, en plus d'un juge de chaise, pour apprécier les volants. Donc c'est extrêmement difficile à filmer, d'autant que au tennis, ben, on filme les balles en X et en Y. Mais chez nous, on va en X, en Y, mais il y a également la hauteur qu'il faut prendre en compte. Mmh. Donc ça suppose un nombre important de caméras. Donc voilà, des moyens importants à mettre en œuvre. Toutefois, il faut remarquer que, notamment lors des Jeux Olympiques, le badminton a été retransmis, les championnats d'Europe ont été retransmis en partie sur l'équipe 21, sans vouloir faire de pub pour les uns ou pour les autres. Voilà. Mais pour bien le filmer, c'est très agréable à voir, mais c'est très difficile à... Maintenant, si vous voulez voir du badminton de très haut niveau, bah, rendez-vous sur Internet, vous allez sur YouTube, vous avez toutes les finales olympiques, championnats du monde, etc. Donc...
Il me semble qu'à une époque, il y a eu des internationaux sur Paris, à Bercy ou à Alain Carpentier, il y a quelques années. On peut en faire en plein air, on peut faire des compétitions en plein air, ça n'est pas qu'en salle.
Alors très franchement Philippe, non. Ouais. Compétition, non. Du jeu de plage, pourquoi pas. Mais après, ça s'appelle du volant, ça s'appelle plus du badminton.
Il y a un classement type, comme au tennis un peu, individuel.
Ah oui, tout à fait, il y a un classement, hein. Il y a 12 classements, N1, N2, N3, c'est le classement au niveau national. On passe après à départemental, D4, D5, D6... R4, R5, R6, c'est le classement régional. Après, on passe en départemental, D7, D8, D9. Mm-hmm. Et après, P10, P11 et P12, qui sont des classements plus de niveau club.
Ouais, donc tout ça, c'est en fonction des matchs qu'on gagne ou qu'on perd dans une saison.
C'est ça, tout à fait.
Ouais. Bon, alors vous parliez des juges arbitres. Est-ce que, d'abord, c'est facile d'être juge arbitre. Est-ce qu'il y a beaucoup de contestations et est-ce que il y a beaucoup de vocations à le devenir?
Ben écoutez, oui, il y a un certain nombre de vocations. Des juges arbitres, je crois qu'il y en a une soixantaine au niveau du département. Chez nous, on a une personne qui est formée et qui s'occupera avec la juge arbitre du tournoi, donc qui est en cours de formation. Voilà, c'est un cursus qui est pas forcément très long, mais qui se déroule sur une ou deux années. Voilà. Quant à la contestation, non, c'est rare. C'est rare. Ouais. J'ai très rarement assisté à des matchs où il y a eu besoin d'intervention d'un arbitre.
Oui. L'erreur, elle est quand même souvent fréquente, non? Parce que ça va très vite. Donc, comment fait-on pour rattraper le coup?
Alors, dans le cas de doute, en fait, on remet le volant. D'accord. Voilà. Parce que effectivement, quand on parle de quelques millimètres, le bouchon du volant est blanc, la ligne est blanche. Donc, on parle de quelques millimètres, on ne sait pas trop. Dans le doute, on remet le volant. Mmh. Voilà. Généralement parlant, encore une fois. Et puis s'il y a une erreur, moi j'ai assisté une fois à une erreur qui aurait pu prêter à conséquence, mais en l'occurrence le vainqueur du match a été le joueur le plus fort et le plus régulier, donc même s'il a bénéficié d'un point qui normalement aurait dû être en faveur de son adversaire, ça avait pas vraiment ça ne prêtait pas à conséquence.
Si vous aviez, Jean-Michel, un joueur ou une joueuse appelé un jour à évoluer à très haut niveau, vous le garderiez, la garderiez, ou alors ce serait logique qu'il aille dans un club de plus grand standing?
Ah mais non, Philippe, nous enchaînons les joueurs au radiateur. Hein. Mm-hmm. Dès qu'ils dépassent un certain niveau, on les enchaîne au radiateur. Non, je pense à un joueur de chez nous qui est parti jouer dans un autre club des Yvelines parce que nous a-t-il dit, il voulait progresser, il voulait. C'est un choix qu'il a fait. Nous sommes un petit club, hein, on n'a mm-hmm. pas des gros moyens, on a une salle. Quand on pense à des villes plus importantes des Yvelines qui disposent de 2-3 salles, ils ont de tout autres moyens. Non, on ne peut pas s'opposer encore une fois au départ de joueurs. En l'occurrence, le joueur auquel je pense joue au niveau national aujourd'hui. Donc bravo à lui, tant mieux, et il est le bienvenu quand il veut venir jouer chez nous.
Alors justement, on parlait aussi des compétitions retransmises à la télévision. L'image, ce sont les Jeux Olympiques, hein, c'est le reflet, c'est le symbole. C'est dommage qu'on n'ait pas un médaillé ou une médaillée qui pourrait peut-être permettre à votre sport d'être encore un peu moins confidentiel.
Oui, bien sûr.
Qu'il soit une véritable locomotive.
Oui, bien entendu. Maintenant, il faut savoir qu'on part quand même de très loin. Il y a une vingtaine d'années de ça, quand moi j'ai recommencé, le badminton était quand même en France un sport relativement confidentiel. Mmh. Dans les pays nordiques, et pour cause, là-bas, pendant 8 mois de l'année, ils peuvent pas jouer en extérieur, donc ils ont des gymnases partout. Un patelin avec 500 habitants au Danemark ou en Suède, ils ont un gymnase. Mmh. Et donc là-bas, en plus, ils ont une morphologie qui s'y prête. Ils sont grands, longilignes et blonds. Alors, est-ce que la blondeur, ça aide? J'en suis pas certain.
Ah oui, il y a un profil type quand même.
Oui, bien sûr, il y a un profil type. Ceci dit, les grands pays du badminton, c'est les pays nordiques, mais aussi l'Asie du Sud-Est.
Mmh. Où,
voilà, là par contre c'est plus du tout le même gabarit, a priori. La Chine, les Chinois ont des très grands champions, les meilleurs joueurs aujourd'hui viennent d'Asie du Sud-Est, enfin le champion du monde actuel, si je ne dis pas de bêtises, est danois. Mm-hmm. Mais dans ces pays d'Asie du Sud-Est, le badminton est une religion, comme peut l'être le football au Brésil ou le rugby dans les pays anglo-saxons ou chez nous dans mm-hmm. certaines régions.
Oui. Et alors donc, on peut en vivre dans ces pays-là, ce sport?
Alors je ne sais pas, il faut leur demander. Oui, les plus grands champions, bien entendu, gagnent. Mais enfin, on est bien loin des sommes qui sont dépensées au tennis, au football, etc. Dans d'autres sports. Encore une fois, sans aucun doute, pour les questions de la difficulté des retransmissions.
Mmh. Alors Jean-Michel, si après cette interview, certains veulent venir vous rejoindre, si ça a suscité des envies, que font-ils, que font-elles? Ils attendent le forum des associations où ils viennent, même dès maintenant, tiens, dès ce week-end, là, à la fin de votre tournoi.
Eh bien, écoutez, Philippe, nous avons reçu avant-hier un nouvel adhérent qui nous avait envoyé un mail. Voilà, je voudrais venir voir le badminton. Est-ce que c'est possible? Alors, il a répondu, écoute, avec plaisir. Tu viens quand tu veux, samedi, dimanche. Et il est venu avant-hier soir. On a joué avec lui. Je pense, j'espère qu'il est reparti content. En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Tout et toutes bienvenus. Tous et toutes, pardon, bienvenus. Nous sommes ouverts, il faut le savoir, juillet, août et toutes les vacances scolaires. Nous
avons... Ça, c'est important.
Oui, nous avons cette chance. La municipalité laisse le gymnase à notre disposition. Et donc, on peut jouer chez nous toute l'année. On est un des rares clubs des environs à faire ça. Ce qui nous donne le plaisir et le privilège, d'ailleurs, d'accueillir des joueurs des environs qui savent que chez nous, ils sont les bienvenus. Et ça nous permet de jouer contre des joueurs venant d'autres horizons. Ça nous permet ne pas scléroser en fait notre jeu, mais au contraire de nous frotter à d'autres joueurs inconnus.
Tiens, une question qu'on n'a pas évoquée, est-ce que vous êtes en partenariat avec les écoles? Est-ce que les écoles viennent s'initier à Saint-Arnoux à votre sport?
Oui, alors nous sommes d'ailleurs labellisés école de badminton par la Fédération française. Et aujourd'hui, les jeunes représentent un gros tiers de l'effectif, puisque nous avons, je crois, 35 joueurs de moins de 18 ans qui sont inscrits chez nous, avec une bonne vingtaine d'entre eux qui ont moins de 15 ans.
Mmh. Très bien, Jean-Michel, merci d'être venu nous parler de votre sport, hein, et puis avec votre accent chantant, un tout petit mot de fin peut-être.
Ben écoutez, pour tous ceux que ça intéresse, rendez-vous sur notre site internet www.badmintonussa.fr. Vous y trouverez tous les renseignements dont vous avez besoin. Vous pourrez laisser un message, vous trouverez les numéros de téléphone des membres du bureau. Donc, bienvenue à tous, et puis, généralement parlant, faites du sport.
Voilà. Merci, ça sera le mot de fin. Merci.
Bienvenue au San Lazzaro. Venez déguster ses pizzas et le meilleur de la cuisine italienne dans un cadre convivial et accueillant, agrémenté d'un jardin d'hiver ou à emporter sur commande. Restaurant San Lazzaro, 103 rue Georges Lenôtre à Rambouillet. Téléphone 01 30 41 05 77. Ouvert tous les jours sauf dimanche de midi à 14h15 et de 19h à 22h15.
Au cœur de la vallée de Chevreuse, les salons Léopold, le lieu idéal pour animer vos week-ends. Les salons Léopold vous proposent, les vendredis et samedis soirs de 19h30 à 2h du matin, un buffet à volonté fait maison, boissons comprises et soirée night club. Le dimanche à partir de 11h30 à 18h, un brunch fait maison, avec les spécialités des fermes de la vallée de Chevreuse. Un salon de thé avec après-midi dansant et animation enfant. Les salons Léopold à Cernay-la-Ville, réservation et information sur www.salonleopold.fr et au 01 34 85 20 02. 01 34 85 20 02.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération à Sonchamp.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know. Sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away.
Chaque dimanche, 10h-11h, sur RVE, retrouvez toute l'actualité sportive, locale, régionale, nationale et internationale dans Tribune Sport, avec Philippe Carnu.
Voilà, merci à Jean-Michel Cani. Et puis, bah, vous n'oubliez pas hein, que, naturellement, Fabrice Duru, il est le recordman maintenant des victoires sur le semi du Rambouillet, avec 4 victoires. Donc, on a vécu une édition 2018 particulièrement historique. J'ai juste une petite annonce pour vous annoncer que samedi 24 mars, donc la semaine prochaine, aura lieu trail et marche active à Drou-sur-Douette, organisé par l'association sportive de Drou-sur-Douette, avec un départ à 18h30. Il y aura donc 9 km, 14 km ou 28 km qui seront proposés au menu de cette belle soirée consacrée à la course à pied et au trail. Voilà, merci de nous avoir été fidèles tout au long de cette matinée. Rendez-vous la semaine prochaine, 10h-11h, on parlera rugby et hippisme. Bon dimanche à tous et à tous. Restez-nous fidèles, n'oubliez pas, c'est la foire d'Ourdan, on en a parlé toute la semaine sur l'antenne d'Herve. Bon dimanche.